Et je vous invite à entendre trois textes aujourd'hui. Le plus ancien dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Un texte un peu plus tardif que je vous invite à partager maintenant, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. » Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Enfin, un troisième texte tiré de l'évangile de Pierre, que vous ne chercherez pas dans vos Bibles parce qu'il n'y est pas. C'est un livre apocryphe. Et de cet évangile de Pierre, des versets 34 à 42. Le lendemain, au commencement du sabbat de Jérusalem et des environs, arriva une foule qui voulait voir le sépulcre scellé. Dans la nuit qui précéda le dimanche, tandis que les soldats relevaient la garde, deux par deux, une grande voix retentit dans le ciel. Et ils virent s'ouvrir les cieux et deux hommes nimbés de lumière en descendre et s'approcher du tombeau. La pierre qui avait été placée à la porte roula d'elle-même et se rangea à côté. Et le tombeau s'ouvrit et les deux jeunes gens entrèrent. À cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les anciens qui étaient là, eux aussi, à monter la garde. Et quand ils leur eurent raconté ce qu'ils avaient vu, ils virent à nouveau trois hommes sortir du tombeau. Deux d'entre eux soutenaient le troisième et une croix les suivait. Et tandis que la tête des deux premiers atteignait le ciel, celle de l'homme qu'il conduisait par la main dépassait les cieux. Et l'on entendit une voix disant des cieux, « As-tu annoncé la nouvelle à ceux qui dorment ?» Et de la croix, on entendit la réponse, « Oui. » Père, merci pour ces textes qui essayent à leur manière de nous dire un événement inexprimable, bien que d'une force extraordinaire. Amen. Là, nous sommes vers l'année 130, quelque part du côté de la Syrie, vraisemblablement. Il y a là un groupe de chrétiens, sans doute un groupe pas très nombreux, de gens pas très nombreux, mais qui expriment leur foi à leur manière, leur foi en la résurrection. Et c'est l'évangile de Pierre, un évangile apocryphe, comme on dit, comme il y en a un certain nombre qui ont été écrits dans l'Antiquité, au IIe siècle. Vous voyez, vous avez l'évangile de Thomas, l'évangile du pseudo-Matthieu, etc. Il y a un certain nombre de textes comme ça, apocryphes, qui nous racontent à leur manière les événements qui nous incombent, évidemment, c'est-à-dire le témoignage relatif à Jésus-Christ. Donc voilà, c'est cet évangile de Pierre qui est là. L'événement dont il parle s'est passé 100 ans avant, une centaine d'années avant. Et pendant ces siècles qui vient de s'écouler de l'année 30 à peu près, la mort de Jésus, si vous voulez, on ne va pas discuter sur une année ou deux, jusqu'à, en gros, cette année 130, et rédaction d'Évangile de Pierre, eh bien, on a raconté des tas d'histoires sur Jésus, des témoignages, que sais-je encore. Mais ici, le merveilleux est tout à fait normal et naturel. On est en Orient, nous sommes dans l'Antiquité aussi. Et la surenchère est aussi normale, finalement, parce que si on y regarde de près à ce texte, eh bien, on s'aperçoit qu'il reste malgré tout théologique. Il nous parle de Jésus-Christ de manière un petit peu surprenante, certes, avec ce Jésus qui domine les deux anges ou les deux personnages qui eux-mêmes ont la tête qui va jusqu'au ciel, et puis ce Jésus qui est suivi par cette croix qui est là, qui rappelle évidemment la croix la colonne de feu du Sinaï qui protégeait l'arrière-garde des Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Là, il y a des rapports qui sont faits, évidemment. Il y a un fond culturel qui fonctionne. Ça va de soi, évidemment. Vous voyez que ce texte plein de merveilleux qui nous surprend, auquel on a du mal à adhérer, est quand même un texte qui exprime à sa manière la foi d'un groupe de chrétiens très, très anciens, finalement. Ils veulent nous dire à leur manière et de manière irréfutable que ce Jésus-Christ dont on parle est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est vraiment ressuscité. D'où cette description qui est surprenante. Pourtant, la sagesse des théologiens, ceux qui ont fixé ce qu'on appelle le canon de Muratori dans les années 180, n'ont pas retenu ce texte. N'ont pas retenu ce texte pour deux raisons. La première, c'est qu'il est trop tardif. Et la deuxième, c'est qu'il y a trop de merveilleux. Trop de choses dans lesquelles on a quand même du mal à entrer. Alors, on a rejeté ce texte. Mais je voulais vous le lire d'abord parce qu'il est intéressant de voir comment vivaient les premières communautés chrétiennes, d'une part, et ensuite parce qu'il est quand même porteur d'un message qu'il dit à sa manière. Mais 60 ans plus tôt, vers l'année 70, là aussi on peut discuter sur un an ou deux si vous voulez, un autre théologien a écrit l'évangile de Marc. Il a écrit l'évangile de Marc que nous avons lu, qui est un peu plus sobre. Il y a moins de merveilleux, moins de choses difficiles à croire pour des hommes du XXIe siècle. Là aussi, les témoins sont décédés vraisemblablement après la guerre civile qui a agité la Palestine de 66 à 70 et la guerre contre les Romains qui a été une guerre épouvantable et très très dure. La description est un peu plus réaliste. Mais ce qui est intéressant, si on lit les autres évangiles, Matthieu, Luc et Jean, eh bien, c'est qu'ils racontent eux aussi cet événement. Ils racontent cet événement de la résurrection. Mais ce qui est assez curieux, c'est que les différents récits qu'il y a dans ces évangiles, eh bien, ils sont aussi très imagés, évidemment. Ce sont des récits très théologiques aussi. Et ils disent, à leur manière, cet événement tel qu'il a été vécu. Mais, en fait, si on y regarde d'assez près, on s'aperçoit que ces événements qui sont décrits dans les évangiles classiques, je dirais, dans les évangiles de notre Bible, eh bien, sont plutôt des expériences assez intimes et assez personnelles et qui disent quelque chose qui, au final, est peut-être intraduisible et qui vaut mieux peut-être ne pas chercher à traduire, finalement. Alors, si nous poussons notre investigation un peu plus loin et si nous remontons un peu plus loin dans le temps, on arrive à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, lui, écrit cette lettre aux Corinthiens en gros, dans les une trentaine d'années après les événements, et il ne dit rien. Il ne dit pas grand-chose, l'apôtre Paul. Il dit « il est apparu ». Et puis, il donne un certain nombre d'apparitions. Pas besoin de détails ici. Et finalement, Paul s'adresse à des gens parmi lesquels il y a peut-être des apôtres encore qui ont vécu l'événement pascal. Une description et des détails donnés, ben finalement, pour l'apôtre Paul, ça n'apporte rien au final. Pour l'apôtre Paul, il est ressuscité et il est apparu. Il est apparu aussi à lui-même. C'est ce qu'il dit dans cette lettre aux Corinthiens. C'est la fameuse apparition au chemin de Damas. Mais c'est assez intéressant de lire le chemin de Damas parce qu'on retrouve la même conclusion que celle que j'ai faite à propos des différentes apparitions des évangiles canoniques. Eh bien, les récits de l'apparition sur le chemin de Damas, il y en a trois, plus quelques allusions. Mais les récits de l'apparition au chemin de Damas ne concordent pas entre eux non plus. Vous savez que dans certains cas, eh bien, les compagnons voient la lumière mais n'entendent pas la voix. Et dans d'autres cas, c'est le contraire. Ils ne voient pas la lumière mais ils entendent la voix. Il faut arriver à tomber d'accord là-dessus, mais on n'y arrive pas. Et tout ça dans le même livre des Actes des Apôtres. Il n'y a pas plus de concordance et Paul a bien raison de ne pas donner de détails. Pourquoi je vous ai choisi ces trois textes pour Pâques ? D'abord parce qu'ils parlent de la résurrection, évidemment, et que ce sont des textes qui sont porteurs à leur manière d'un grand souffle d'espérance, évidemment, et aussi sans doute de joie pour ceux qui les entendent. Mais si on y regarde de plus près, lorsqu'on est proche de l'événement de Jésus, une trentaine d'années après sa mort, sa croix, la croix, la crucifixion, on a des récits qui ne disent quasiment rien. Il est ressuscité, c'est l'essentiel, et avec ça, ça suffit. Quand on passe à la génération suivante, eh bien, on en rajoute un peu. On veut signifier que oui, bon, il y a eu des événements, des choses comme ça. Et quand on passe à la génération d'encore après, eh bien, on en rajoute encore. C'est une démarche très humaine que l'on retrouve dans bien des descriptions d'événements historiques auxquels on veut donner du poids, dont on veut dire qu'ils se sont vraiment passés et qu'ils ont eu des conséquences pour les siècles à venir. C'est une loi de sociologie, c'est comme ça. Plus on s'éloigne d'un événement, bien plus on veut prouver qu'il a existé, plus on en rajoute dans sa description. Ce n'est pas une malhonnêteté, évidemment, il ne faut pas le voir comme ça, mais c'est simplement une sorte de réflexe que l'on a, de réaction que l'on a, pour dire, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Il s'est passé à Pâques, quelque chose d'extraordinaire, et on le raconte à notre manière. Mais c'est vrai que si on monte comme cela, dans l'échelle du temps, et qu'on s'approche de l'année 30-33, l'année, la période du ministère de Jésus et de sa mort, et de sa résurrection, on peut se poser la question, mais que reste-t-il, finalement, de cette résurrection, au jour J de la résurrection, finalement ? Qu'est-ce qui s'est passé au matin de Pâques et dans les jours qui ont suivi? Peut-être que après les trois jours, qui sont les trois jours traditionnels pour entamer le deuil dans la mentalité hébraïque de l'époque, peut-être que ces hommes et ces femmes qui avaient suivi Jésus, qui avaient entendu sa prédication, qui avaient investi sur Jésus, évidemment, peut-être que ces hommes et ces femmes, après la mort de Jésus, avait encore le sentiment d'une présence invisible. Sans doute ont-ils eu des expériences qui sont très personnelles, voire peut-être des extases. Vous savez que les 500 frères dont parle Paul, il n'y a que lui qui fait cette réflexion sur ces 500 frères. Et les exégètes qui se penchent sur cette question disent que vraisemblablement, il y a eu une extase collective qui s'est passée à un moment donné ou à un autre. Et puis, eh ben, certains témoins sont encore vivants quand Paul écrit la lettre aux Corinthiens, et il le dit. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des expériences qui sont très intimes et très personnelles. Et les compagnons d'Emmaüs, quand ils descendent de Jérusalem à Emmaüs, dans l'évangile de Luc, eh bien, ils ne reconnaissent pas Jésus dans leur marche. Ils reconnaissent Jésus qu'au moment où il y a la Sainte Cène, le partage du pain dans l'auberge d'Emmaüs. Et effectivement, Jésus est absent à ce moment-là. Et ces hommes portent en eux une présence inexprimable. Ils racontent cette histoire. Ben oui, il était avec nous sur cette route quand nous plongions dans la solitude du chagrin et du deuil. Il était bel et bien présent. Et c'est le partage qui signifie véritablement cette présence. Je pense à Marie de Magdala, vraisemblablement une disciple, compagne de Jésus, qui l'a suivie pendant des mois et des mois. Quand elle est au cimetière, elle ne reconnaît pas Jésus non plus. Pourtant, elle est très proche de Jésus. Mais elle ne le reconnaît pas. Il faut que là aussi, il y ait un signe qui soit là. Marie, son nom qui est prononcé, pour qu'effectivement, elle réalise. Eh bien, elle réalise qu'il y a à côté d'elle une présence, là aussi. Une présence qu'on ne saisit pas. Une présence invisible. Une expérience très, très personnelle qui se vit là. De même que dans la chambre haute, lorsqu'ils sont dans la maison fermée et que Jésus apparaît comme cela, d'une manière qui nous dépasse complètement, eh bien, on peut penser que ces disciples qui sont entre eux, qui prient, qui se racontent les événements qui se sont passés, qui réfléchissent à tout cela, réalisent que ce Jésus est présent. Que reste-t-il au matin de Pâques et dans les jours qui ont suivi ? Eh bien, il reste l'essentiel. L'essentiel qui est préservé par-dessus tout par ces hommes et ces femmes qui ont vécu tous ces événements. L'essentiel, c'est la prédication de Jésus. C'est ça qui reste. Et puis c'est ça qui nous réunit ici ce matin, auquel on peut associer d'autres personnes auxquelles nous pensons et qui pourraient venir, qui n'ont pas pu venir pour des tas de raisons. Qu'est-ce que Jésus a raconté finalement qui bouleverse les gens comme cela, au point que, alors que il est mort et on puisse se dire, mais non, il est bel et bien présent. Eh bien, Jésus a annoncé le royaume. Il a dit à toutes celles et tous ceux qui ont rencontré, mais écoutez, il y a un royaume qui est là, un royaume qui vient et qui est déjà présent. Ce que nous appelons le royaume de Dieu, un royaume qui est fondé sur l'amour, sur la vie, sur la joie. Et c'est cette annonce du royaume qui fonde l'espérance en Jésus-Christ. Il nous fait dire, ben effectivement, ça c'est assez intéressant comme parole. Dans nos difficultés que nous pouvons vivre au jour le jour, comme cela nous arrive à toutes et à tous, eh bien, il y a une lumière qui brille, qui ne s'éteint jamais. Et puis, il y a les gestes qui vont avec l'annonce du royaume. Parce que parler, c'est facile, mais vivre, c'est plus difficile. Or, Jésus qui annonce le royaume, eh bien, à des gestes qui engagent, finalement. Des gestes qui révèlent quelque chose d'extraordinaire. Un lépreux qui est guéri, qui est réintroduit dans la société, un aveugle qui se met debout, ou un paralysé qui repart dans la vie comme cela. Il y a tant et tant de gestes que Jésus a faits et qui nous disent qu'il est porteur d'une puissance extraordinaire qui fait vivre. Il y a aussi ces gestes de la Sainte Cène, de la multiplication des pains, et ainsi de suite. Des gestes où on voit Jésus qui entre chez les gens et qui partage avec eux l'essentiel du repas. Et quels que soient les gens, qu'ils se soient des collecteurs d'impôts, des pêcheurs, etc., il accueille même des païens de temps en temps, pas toujours de bonne grâce, il faut le reconnaître, mais il finit toujours par les accueillir. Si on frappe à sa porte, et non pas le contraire, comme dit l'Apocalypse, mais si on frappe à sa porte, alors il ouvre la porte. Pourquoi ? Ces gestes qui engagent, ces gestes qui sont là pour illustrer l'annonce du royaume, nous disent qu'en fait, c'est une parole qui est dite. C'est une parole qui va toucher celles et ceux qui entendent cette parole, qui va les toucher véritablement au cœur. Jésus nous parle à toutes et à tous, et de manière collective, mais aussi de manière personnelle. Nous avons des joies, nous avons des peines, mais si nous entendons la parole qui est dite, alors nos joies et nos peines prennent un sens tout à fait nouveau. Ils viennent s'inscrire dans l'espérance du royaume. La parole, elle est là. Elle touche les auditeurs au cœur même de leur vie. Elle les bouleverse, elle les transforme et en quelque sorte, elle les ressuscite. Parce que Pâques, c'est d'abord notre résurrection dont il s'agit. Combien de gens il y a dans les récits des évangiles, combien de gens y a-t-il qui sont mis debout précisément fait référence à Bartimée tout à l'heure, à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare et quelques autres, le paralytique qui est passé par le toit, celui qui était à la fontaine de Bethsaïde, et ainsi de suite. On pourrait faire une liste très longue de gens qui, écrasés par la vie, sont remis debout, c'est-à-dire sont, au sens propre, ressuscités. Ils sont remis dans la vie, relevés. Et c'est ça qui est intéressant. Jésus, par une parole, nous fait vivre, véritablement. Il nous révèle à nous-mêmes. Il révèle les hommes à eux-mêmes. Et il les fait vivre. Jésus n'est pas un sage. Il n'a pas la parole de quelqu'un qui a réfléchi, qui prend du recul, et puis qui vous distille un conseil, comme ci, comme ça. Absolument pas. Je pense que Jésus était assez tourmenté. C'est-à-dire qu'il a dû se poser des tas de questions. Mais que chaque fois qu'il a vu quelqu'un dans la peine, eh bien, comme dit l'Évangile, il avait les entrailles qui remuaient, quoi. Il était pris au ventre, et puis, ah, il ne pouvait pas faire autre chose que d'y aller pour pouvoir véritablement le sauver, cette personne. Jésus, il est porteur d'une parole de liberté, une parole d'amour incroyable, qui pose cette personne de Jésus, précisément, dans son être et dans ses projets. La parole, quand nous la recevons, elle est emportée par nous, par tout un chacun, comme une sorte de trésor, quelque chose qui nous appartient en propre. L'expérience que nous avons les uns les autres de cette parole qui nous touche est vraiment là aussi extrêmement intime. Peut-être que l'un sera touché et pas l'autre. Mais le jour d'après, ce sera peut-être le contraire. Cette parole qui nous touche, c'est une parole de grâce, d'amour, une parole d'éternité, une parole dont on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs finalement, mais qui est posée là, dans le temps, comme si elle était vraie pour le monde entier, aussi bien hier qu'aujourd'hui et que demain finalement. Et c'est peut-être la passion, la mort de Jésus, le dernier geste de Jésus, qui dit véritablement qui est ce Jésus, son engagement dans le monde. Car Jésus, dans son engagement, est allé jusqu'au bout. Il est vraiment jusqu'au bout, dans la tourmente, dans la difficulté. Il est allé jusqu'au bout pour délivrer au final une parole d'amour qui est le pardon et qui va être évidemment la résurrection. C'est ce jusqu'au bout de Jésus qui va nous faire saisir la force de Jésus et le sérieux de son discours finalement. La parole, elle est dite, elle est entendue. Elle est dite et entendue un jour. Et ce jour-là, le temps est véritablement déchiré et nous ouvre les portes de l'éternité. La parole, elle n'est pas un beau discours ou une bonne prédication. Elle n'est pas une dogmatique non plus, parce que la dogmatique serait peut-être trop rigide, manquerait peut-être de souplesse. Elle n'est certainement pas une loi. La parole, c'est véritablement cet appel à la vie, à la liberté. Et parce qu'il y a cette éternité et cette liberté, la mort est dépassée complètement. La mort est vaincue. Elle est vaincue par la vie et par l'amour. Elle est vaincue parce qu'il y a ce Christ qui est venu un jour pour nous parler de ce royaume, pour nous parler de la grâce, pour nous parler de la vie. Alors, toutes celles et ceux qui ont entendu la parole, qui l'ont partagé véritablement avec ce Jésus, quelque part en Palestine, ils ont voulu nous le dire. Ils ont voulu dire leur expérience, peut-être comme nous le faisons aussi, je veux dire. Peut-être avez-vous l'expérience de cette présence absente dans vos vies. Dire, ben voilà, oui, là, il y a une chaise vide, mais en fait, cette chaise, elle est peut-être vide comme ça, à mon regard, mais elle est occupée par quelqu'un, précisément. Que ce soit quelqu'un que nous aimons tout particulièrement, parce que la mort est vaincue en Christ, ou que ce soit parce que nous saisissons que cette présence de Jésus est bien là dans le monde. Oui, au fil des siècles et des années, ils ont voulu nous dire leur expérience. Cette éternelle parole qui est là, qui est au cœur même de l'humain. Alors ils l'ont imagé, comment dire la présence de l'esprit, la force de l'esprit. Difficile. On en écrit des livres, on n'épuise pas le sujet, mais on peut transmettre un témoignage. Alors ils ont imaginé, ils ont imagé aussi cette expérience pour nous la transmettre, pour le dire, pour nous dire, ben oui, il est ressuscité. Pâques, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est l'aventure, c'est la création d'un monde nouveau. Et il est ressuscité en nous. Nous l'avons là, présent, au cœur même de notre vie, au cœur même de notre être. Il est là dans le monde, il est là en esprit et il est là en vérité. Il est là pour que nous en vivions, pour que le monde en vive, éternellement. Oui, Pâques, c'est la fête de la résurrection, de la vie, de la joie, de l'espérance. C'est la fête aussi d'un éternel présent. Amen.